Est-ce qu'on les voit, les invisibles? Je me pose la question parce que tout le monde l'emploie, ce mot invisible. Je parle pas des fantasmes des mâles de plus de 50 ans. À l'heure des manifestations, de la colère, de l'indignation souvent nécessaire, se pose toujours cette même question de la représentation et de l'invisibilisation. Je pense à cette figure si floue du gilet jaune, en fait, dans les médias, les sondages, la parole politique, mais aussi dans la rue ou sur les ronds-points. Le gilet jaune, je sais pas si vous avez remarqué, dans ses représentations, il a tendance à attirer toute l'attention sans pour autant qu'on saisisse vraiment ce qu'il est ou non. C'est le peuple pour certains, c'est l'enragé pour d'autres. C'est une dizaine de porte-drapeaux, ou alors c'est la communauté des vrais gens. C'est la droite, c'est la gauche, sont les extrêmes, ou la majorité qui se taisait. C'est presque toujours un homme, au point qu'on parle de femme, de gilet jaune, ce qui est quand même troublant. Le gilet jaune qui semble saturer l'actualité, dont on parle tout le temps, qui est censé, par sa couleur, être fluorescent, ben c'est comme si on le discernait pas vraiment. Alors de quoi est-il le nom? Est-ce qu'on peut au moins se poser cette question? Et si son identité au gilet jaune, c'était justement d'échapper à la représentation, à toute forme de représentation, au point que celles et ceux qui l'incarnent risquent de rester invisibles. Alors qui pour les rendre visibles?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, que rend visible mon invité d'aujourd'hui. Elle sera à l'affiche demain du nouveau film du talentueux Louis-Julien Petit, après Discount et Carole Mathieu, qu'on avait mis en avant dans cette émission. Les Invisibles, c'est l'histoire de travailleuses sociales qui luttent dans l'ombre pour la réinsertion de femmes sans-abri, un film de résistance, de désobéissance qui nous a vraiment réjouis. Bonjour Audrey Lamy.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci pour
d'être
ce
là.
Que vous venez de dire.
Mais oui, les invisibles, qui sont-ils pour vous? Tiens, ceux qu'on voit pas aujourd'hui.
Alors les invisibles, ce sont deux catégories de femmes. Ce sont celles qu'on ne voit pas, qui sont dans la rue, qui sont devant votre boulangerie, devant votre supermarché, et voilà, qui n'ont pas de logement, qui tendent une main. Et les autres invisibles, ce sont les travailleurs sociaux. Donc là, dans ce film, ce sont ces femmes-là qui ne sont pas aidées à aider les autres.
Le but de ce film, pour vous, de Louis-Julien Petit, c'est de les rendre visibles, de les mettre en avant,
De les mettre en lumière et puis de faire réfléchir avec un film qui est tendre, qui est émouvant, mais c'est surtout qui est aussi sauvé de temps en temps par de la comédie, parce que sinon c'est ce que ces femmes-là ont besoin quand on les a rencontrées. Elles ont besoin d'humour, c'est leur bouclier, c'est leur passerelle entre vous et elles. Et donc ça leur permet de relever la tête, d'avoir le regard en l'air et puis de pouvoir exister. Mais c'est un joli film parce que je trouve que, enfin moi c'est ce que je dis souvent, je dis ce film-là il est magnifique déjà parce que le sujet touche beaucoup de gens, mais c'est surtout de la manière dont il a traité
oui,
ce sujet.
Et ça dit quelque chose quand même du pouvoir et de la fonction du cinéma, d'être capable de montrer ça.
Ouais. Ouais, absolument. Le cinéma, c'est une. Alors nous, on fait pas de politique, mais c'est vrai quand on a des sujets comme ça qui parlent à tout le monde, parce que ces femmes-là, quand on les a rencontrées, on s'est dit, mais en fait, elles nous ressemblent, elles vous ressemblent, ouais. Elles nous ressemblent toutes, quoi. C'est-à-dire qu'elles avaient une vie de famille, elles avaient un emploi, elles ont fait des études. Ce sont des femmes fortes que la société a tendance à mettre de côté. En tout cas, nous, on a même nous perdu l'habitude de les voir. Et qui sont bien là, en bas de chez nous, et qui ont des choses à dire, et voilà, il faut les écouter. Et ce film-là apporte aussi des solutions. Parce que c'est ce qui m'a plu aussi dans ce film.
Quelles solutions pour vous?
Alors, c'est marrant parce que quand j'ai lu le scénario, j'ai dit à Louis-Julien, mais attends, c'est génial les solutions que tu apportes. Donc tout ça est illégal. Il me dit, non, évidemment, André, tout ça est complètement illégal. Bah, c'est-à-dire que elles vont les porter jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de retrouver les compétences, c'est-à-dire savoir ce qu'elles savent faire, et elles vont les coacher, elles vont les relooker, elles vont faire en sorte qu'elles retrouvent une identité et une personnalité qu'elles avaient perdues.
Et elles vont un peu désobéir aussi. Et ça c'est quand même assez intéressant, parce que peut-être, Audrey Lamy, que ce que vous espérez provoquer, c'est une incitation à la désobéissance.
C'est absolument ça. Mais c'est de la désobéissance douce. Voilà, il n'y a pas d'agressivité dans le film. Ça reste de la désobéissance, oui, une désobéissance civile où tout le monde d'un seul coup se soude et se dit il y a des choses à faire.
Les invisibles sont donc ces travailleuses sociales qui, suite à une décision municipale, voient leur centre d'accueil fermé et qui, même si elles n'ont plus le droit, continuent d'aider celles qui y venaient. À quoi est-ce que vous aimeriez désobéir, vous, aujourd'hui, Audrey Lamy?
En tout cas, avec ce sujet-là, Je vous avouerai qu'on a, beaucoup travaillé, évidemment, avant le film, pendant le film, après le film, parce qu'on en discutait énormément avec Louis-Julien Petit, le réalisateur du film, qui est dans ce sujet-là depuis des années, depuis 3 ans. Il a mis un an de sa vie à aller dans des centres d'accueil, à rencontrer des travailleurs sociaux, à rencontrer des femmes SDF, à aller faire des maraudes, à aller dans des centres d'accueil. Donc forcément, moi, je suis un petit peu de ce côté-là quand il dit bah, « j'ai envie que l'argent de mes impôts aille dans l'aide plutôt que dans l'exclusion ». Moi, il m'a contaminé sur ce sujet-là, pour lequel j'ai été très sensible déjà à la base, mais je connaissais très peu de choses, et le fait de m'être documenté, informé, et d'avoir été dans ce sujet-là depuis pas mal de temps, je suis à fond derrière lui. Lui, il parle des arrêts anti-mendicité. Voilà, moi, il m'a contaminé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit aujourd'hui, en bas de chez vous, il y a des pics devant les boutiques, il y a des barreaux devant les bancs parce qu'on empêche les gens de s'endormir.
Ce mobilier urbain.
Mobilier urbain qui est une torture, non mais qui est là juste pour les exclure. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ça c'est une vraie solution? Aujourd'hui, on est quand même dans un pays riche, on est en 2019, c'est quand même assez triste de voir des gens qui sont pauvres, et en plus on leur demande de partir parce qu'ils sont pauvres. C'est ou on leur demande dans certaines villes de payer une amende parce qu'ils font la manche. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Des choses qui ne sont pas tout à fait claires.
C'est la voix de quelqu'un qui n'obéit à personne, justement. Vous avez choisi de nous faire entendre ce matin la voix de Coluche. En 1981, tiens, c'est un extrait d'interview. On est dans la merde, peut-être ça vous dit quelque chose.
On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va. J'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu.
Pourquoi la voix de Coluche, Audrey Lamy? Merde.
Pour plein de raisons, parce que c'est une voix que j'ai entendue très tôt avec mes parents qui étaient très fans de Coluche. Donc il y a énormément de souvenirs sur des voyages en voiture avec mes parents. On écoutait ça pendant tout le trajet. Donc voilà, c'est une voix qui nous a marqué. C'est un homme, un combattant, une force de vie.
Eh oui.
C'est plus qu'un artiste. Ça a
eh
été
oui.
un homme qui a marqué et qui marque encore aujourd'hui. Et on parle encore. Aujourd'hui, il a fait des choses absolument fantastiques. Il a mobilisé des milliers de bénévoles. Il a distribué des millions de repas pour les gens. Il sait tout faire. Il sait tout jouer. Il peut tout dire.
Il incarne aussi une époque, j'ai l'impression, où l'humoriste, en particulier l'artiste en général, pouvait se saisir d'une parole politique et on l'écoutait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus compliqué, moi.
Croyez, je sais pas. Non, je pense qu'il y a encore des artistes qui arrivent à dire certaines choses. Après, il faut avoir ce qui est chouette avec ce qui est beau avec ce personnage qu'il a créé aussi, parce que derrière son nez rouge, sa salopette et puis son t-shirt jaune, il a pu pousser un peu, enfoncer un peu les portes. Et aujourd'hui, non, je pense qu'il y a encore des artistes qui ouvrent leur gueule. Et ils ont raison. Il s'est servi de son image, de sa notoriété pour dire des choses, et il était libre, en fait, c'est ça, c'est qu'il était, il a une liberté qui est assez dingue, et quand il parle, on l'écoute, et voilà.
Et dans le son qu'on vient d'entendre, Audrey Lamy, et qui résonne de façon troublante avec l'actualité aujourd'hui, j'ai l'impression que ça dit aussi quelque chose de l'usage qu'il faisait de l'humour. Quel est pour vous, et qui est également humoriste, le pouvoir, justement?
Mais la meilleure arme c'est ce que je dis souvent en promo, c'est la meilleure arme pour laisser glisser des messages, pour faire réfléchir, pour rassembler les gens.
Quand est-ce que vous en avez pris conscience de ça? Toujours?
Ouais, je pense. Je sais pas, je me suis pas posé la question, mais en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu le scénario de Louis-Julien Petit. Je me suis dit, il a raison de traiter des sujets de société avec humour, parce que c'est une force, et puis ça permet de rassembler. On a fait beaucoup d'avant-premières, et il y a énormément de jeunes qui ont pris la parole, qui ont pris le micro pendant les débats, et je me suis dit, c'est génial, parce qu'ils ont 14, 15, 16 ans, mais l'humour permet aussi de rassembler toute une génération, et sur un sujet aussi fort, Voilà, je trouve que c'est assez puissant.
D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais pour préparer votre rôle d'assistante sociale, vous êtes allée dans certains de ces centres d'accueil, vous avez été au contact de ces femmes en situation de grande précarité.
Oui.
Et vous avez trouvé de l'autodérision, de l'humour.
Non mais dingue. Oui. Bon, alors évidemment, pour raconter cette histoire, il fallait que je me documente, que je m'informe. On est parti dans des centres d'accueil avec Louis-Julien. On a rencontré donc des travailleuses sociales. C'était un centre à Grenoble. Et sur le trajet Paris-Grenoble, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur poser comme question? Enfin, je savais ce que j'avais envie de poser comme question, mais je les connaissais pas. Je me suis dit, qui je suis, Audrey Lamy, pour rentrer un peu dans leur intimité, créer un contact? Est-ce qu'elles auront envie? Jusqu'où je peux aller? Et en fait, il m'a dit, non, mais attends, Audrey, tu vas voir, tu vas passer la porte de ce centre et tu vas te rendre compte déjà de l'amour qu'il y a là-dedans et surtout de l'humour, de l'autodérision, parce que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si elles n'ont pas ça, elles s'effondrent.
C'est par leur rire aussi qu'elles vous ont touché.
Mais bien sûr. Bien sûr, j'ai ouvert la porte et effectivement, je suis tombée face à une femme SDF qui s'appelle Rose. C'est un nom d'emprunt parce qu'elle s'appelle pas du tout Rose, mais et elle me disait, excusez-moi, vous êtes du showbiz. Bah, je dis, ouais, je sais, peut-être, ouais. Elle me dit, ouais, ok, je suis l'ex de Samina Seri, d'accord. Je suis bon. Voilà, comme vous, j'ai ri, j'ai dit, mais c'est vrai. Non, je déconne, j'avais juste envie de déconner. Et bon, alors il y a eu des moments évidemment émouvants parce qu'elles nous ont et bouleversants parce qu'elles nous ont elles ont témoigné ce qu'elles avaient vécu et les parcours de vie qu'elles ont eu, c'est évidemment très triste, mais elles veulent qu'on rie avec elles. Elles veulent pas qu'on rie d'elles, elles veulent qu'on rie avec elles parce que c'est un moyen de se mettre tous les deux, voilà, vous voyez là en deux secondes on a ri, on s'est mis tout de suite au même niveau. Il y a pas eu de et je pense qu'elles ont besoin de ça.
Celle qui ne se met au niveau de personne dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Audrey Lamy, elle existe. C'est la culture et son actualité insensible, sans pitié, moins Cosette que Thénardier. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 8 janvier?
Devinez qui revient à la maison.
Je t'aime, maman.
Moi aussi, mon chéri.
Et je t'aime, papa.
Moi aussi, mon poulet.
Tanguy revient au Nid le 10 avril prochain, près de 18 ans après son film culte. Étienne Chatiliez s'apprête à donner une suite aux aventures de son héros, délicieusement régressif. Dans un teaser mis en ligne hier, on retrouve Sabine Azéma, André Dussolier, Éric Berger. Cette fois, Tanguy, 44 ans, revient chez ses parents après un divorce et il a sa petite fille avec lui. Des groseilles à Tati Daniel en passant par Tanguy, donc Étienne Chatiliez, dont les héros archétypaux sont devenus des expressions françaises, n'avait plus sorti de film depuis 2012. Vivement le printemps.
Ces temps actuels où les choses se durcissent aussi parfois autour de nous, où je me suis dit que ces béguines étaient assez modernes, étaient sans doute, elles avaient des leçons à nous transmettre.
La nuit d'Aline, la romancière Aline Kinner s'est éteinte hier, a annoncé son éditrice Liana Lévy. Elle avait 59 ans, auteure de 3 romans, nourrie par son goût des voyages, sa passion pour l'histoire du Moyen-Âge. Aline Kinner avait notamment fait paraître en 2017 La nuit des béguines, fresque littéraire sur le destin d'une communauté de femmes libres à Paris au début du XIVe siècle, largement saluée dans la presse. Le roman s'était écoulé à près de 60 000 exemplaires. RIP.
Il représente une scène de la Bible. Judith décapitant Holoferne.
Caravage tendre, le tableau découvert par hasard en 2014 dans une demeure de la région toulousaine est attribué au peintre italien. Le Caravage va pouvoir être vendu aux enchères, titré Judith décapitant Holoferne. La toile avait été classée trésor national en 2016, ce qui interdisait à l'œuvre de quitter le territoire français. On vient d'apprendre que l'État avait finalement renoncé à l'acquérir. Elle sera donc mise en vente en mai ou en juin prochain. Premières estimations, 120 millions d'euros. Qui dit mieux?
Miroir magique au mur. Qui a beauté parfaite et pure ?
Et enfin, les bonnes résolutions de la mode en ce début d'année 2019. Le syndicat américain de la mode a lancé un appel pour encourager designers et maisons de couture à faire davantage défiler les femmes aux mensurations différentes, notamment les femmes un peu plus rondes, à l'image du mannequin star Ashley Graham. Une initiative pour favoriser une approche plus positive du corps dans un milieu où le 34 reste la taille de rigueur sur les podiums. Évidemment, vous nous connaissez, on like. Et la comédienne Audrey Lamy, invitée de Boomerang ce matin pour Les Invisibles, en salle demain, un film, à mon sens, quand même à la gloire du féminin, Audrey, à travers des personnages qui luttent pour leur dignité. En quoi le féminin, c'est un enjeu à part entière de ce film, pour vous, justement?
Déjà parce que quand on est une femme à la rue, c'est la double peine. C'est-à-dire que On en parle très peu, et c'est pour ça qu'on les appelle aussi les invisibles. Ce sont ces femmes-là qui se cachent, parce qu'elles deviennent forcément des femmes seules dans la rue. On sait ce que ça peut...
Qu'est-ce qui est plus dur et qu'est-ce que ça implique?
Bah non, mais c'est des agressions sexuelles, c'est des agressions physiques, c'est des agressions... donc forcément, on a envie... 40% des SDF sont des femmes, donc on a quand même... aujourd'hui, il y a des choses à faire. Il y a des centres, par exemple, où des hommes peuvent... Il y a des centres mixtes, où des hommes peuvent venir avec des chiens et pas des femmes. Il y a une sorte de choses assez... pas très équitable, en tout cas. Enfin, je sais même pas si on peut parler de ça, c'est pas le mot, mais je veux dire, voilà, après, effectivement, on pourrait parler aussi des hommes et tout ça. Louis Julien avait envie de se focaliser là-dessus suite au documentaire de Claire Lajeunie qui parle de ces femmes dans la rue. Parce que c'est extrêmement...
C'est vrai que le film montre ça, hein, que les premières victimes de la domination masculine, ce sont les plus précaires, ces femmes. Ouais. On les a pas ou très peu entendues, d'ailleurs, dans les médias, au moment fort du mouvement MeToo. Audrey Lamy, comment vous l'expliquez, ça? On les voit pas, on les entend pas non plus.
Bah non, mais parce que elles se cachent, et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le film, on essaye de faire en sorte qu'elles existent, de ça, parce qu'elles s'oublient elles-mêmes, elles ont peur, ce sont des victimes que la société exclut, que les hommes, c'est assez compliqué en fait, comme je trouve que Louis Julien a fait un film absolument dément, parce que on parle de la femme, mais on parle de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire que effectivement on parle de Chantal qui est dans le film, on parle d'Adolphe Avant-de-Mera qui joue le rôle de Chantal, mais on aurait très bien pu parler des hommes, mais on parle surtout de l'humain, quoi.
Là, je me suis dit... C'est quoi cette histoire de scooter, de machine à laver, tout ça, tu peux m'expliquer un peu?
Bah, Chantal, elle sait réparer des trucs, alors je l'aide, c'est tout.
C'est tout.
Puis ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Du coup, j'ai pensé à un truc, je me suis dit que... Enfin, regarde, si on cherche ce pour quoi elles sont douées. Par exemple, leur travail, enfin leur ancien travail, leur formation. Ensuite, on les coache. Ici, on pourrait faire une sorte d'atelier thérapeutique. Du coup, elles vont reprendre confiance en elles. En fait, on les accompagne. Manu, tu t'imagines s'il y en a une qui s'en sort, même juste une, on aura réussi, quoi.
Corinne Massiro et Audrey Lamy dans Les Invisibles, donc, et on l'entend, le projet de votre personnage, c'est de faire en sorte que ces femmes retrouvent confiance en elles. Par quoi ça passe?
Retrouvent confiance, retrouvent une dignité, et puis surtout, parce que quand on discutait avec elles dans les centres d'accueil, elles nous disaient, au final, le pire, c'est pas le froid, la faim, c'est le non-regard. Sarah Succo, elle joue une femme SDF dans le film, et elle a fait la manche pendant quelques jours pour ressentir ce que ces femmes-là pouvaient ressentir. Et en fait, elle disait, effectivement, ce qui est terrible, c'est que les gens ont peur de nous regarder, les gens ont même peur de nous dire bonjour. Je ne demandais pas une pièce ou une cigarette ou quoi que ce soit, je disais juste bonjour, et elle me disait, en fait, le regard fuyant, et le non-regard surtout, est terrible. Et en fait, c'est ce qu'on dit souvent. Alors effectivement, on peut pas donner à tout le monde, parce que c'est compliqué, mais il y a un truc qui est gratuit, c'est la considération, c'est juste le regard. Dites-vous ce que dit Chantal dans le film, c'est putain, c'est la plus moche qui a trouvé un mec. Ça va vous faire rire, ce rire-là, vous allez pouvoir le communiquer à la personne qui est là, et parce que ça peut aller très vite. En fait, ce sont des femmes qui ont eu des accidents de vie, qui d'un seul coup, mais comme n'importe qui, rencontre une séparation, un licenciement, un deuil, une maladie, j'en sais rien, et ça peut aller très vite. Alors soit on a un socle familial, on a des amis sur qui s'appuyer, mais en tout cas on a toujours besoin d'aide à un moment donné.
Sur la confiance qui est centrale dans le film, par quoi ça passe pour vous, la confiance en soi, Audrey Lamy? Qu'est-ce qui vous a donné confiance à vous?
Oh non, mais est-ce que nous on a vraiment...
On en a tous besoin, ouais, de confiance en soi. Ouais.
On en manque souvent, mais tant mieux. Quand on a trop confiance, après, on fait des choses pas bonnes. Mais ce qui me donne confiance, moi, ça paraît toujours un peu bébête de dire ça, mais c'est de rester sur l'humain, quoi. C'est ce que disait Coluche, c'est qu'il pouvait tout dire, ce que je disais tout à l'heure, ou tout faire, c'est qu'il remettait toujours l'humain au centre.
Quand est-ce que vous avez su que ce serait votre métier, comédienne, vous?
Quand j'ai su que ma sœur pouvait gagner sa vie en faisant ça, et je me suis dit ah tiens, en fait c'est vraiment un travail. Moi, pour moi, un travail c'était aller, quand j'étais petite, c'était d'être vétérinaire, médecin, j'en sais rien, avocate. Ou... Et je pensais pas que avec l'art on pouvait vivre de ça.
Ce qu'il faut dire, c'est que votre sœur a eu un rôle dans votre vocation. Il paraît que c'est grâce à Alexandra Lamy que vous avez eu votre premier rôle. C'était au Conservatoire de Nîmes. Vous jouiez son fils et vous étiez haute comme trois pommes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors je jouais elle quand elle était jeune. Ah oui, non, je jouais aussi son fils. J'ai joué aussi elle quand elle était jeune. Je l'accompagnais secrètement au Conservatoire de Nîmes parce que mes parents voulaient absolument pas qu'elle fasse de théâtre. Et comme on a 10 ans d'écart, c'est vraiment ma grande sœur, donc elle m'a énormément gardée les mercredis, les samedis. Et donc je l'ai accompagnée, je l'ai accompagnée, j'étais dans les coulisses et puis après j'ai joué avec elle. Et c'était assez dingue, déjà parce que vous êtes voilà, on doit rien dire à ses parents, donc on prenait le train, dans l'interdit exactement, on prenait le train, on allait à Nîmes, elle me présentait à ses copains, enfin voilà, c'était la petite sœur qui d'un seul coup était, enfin voilà, on a toujours été très très complices et cette complicité là on l'a encore aujourd'hui, mais effectivement elle m'a donné cette envie là quoi.
Et un frisson peut-être la première fois qu'elle vous a déguisé et vous a fait monter sur scène?
Complètement, puis un frisson, elle était encore là hier soir et j'ai pleuré de l'avoir pleuré. Vous savez,
à l'avant-première du film.
Ouais, elle était à l'avant-première du film hier, et puis de l'avoir juste à côté de moi, d'applaudir et de pleurer parce que je sais que voilà, il y a cette espèce de vraiment de bienveillance qu'on a l'une envers l'autre et on se soutient et voilà, c'est assez fort la relation qu'on a malgré nos 10 ans d'écart parce que il y a une fierté, c'est de se dire que elle se dit qu'elle a bien fait de me contaminer, et moi je me dis que j'ai bien fait de la regarder et de l'écouter.
Ah ouais, c'est votre sourire qui me contamine ce matin. Surtout quand vous en parlez, alors on va continuer à sourire ensemble. Pas de pleurs, s'il vous plaît. On va parler de jeu, de solidarité aussi, juste après. Stevie Wonder, tiens, For Once in My Life, en 1968, parce qu'on est mardi. Tout simplement, vous êtes sur France Inter avec Audrey Lamy, que vous écoutez Boomerang et que j'ai décidé qu'on serait heureux ce matin.
Ouais.
Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. In my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say this is mine. You can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle a ce petit quelque chose d'espiègle et d'enfantin qui donne aussitôt envie soit de lui pincer la joue, soit de prendre ses jambes à son cou avec ses petits yeux d'écureuil, son carré blond remonté en chignon, on pourrait la croire comme ça au-dessus de tout soupçon. Et si vous voulez mon avis, elle est aussi du genre à vous faire un croche-patte, à vous arroser de poils à gratter quand vous avez le dos tourné, à endosser je ne sais quel masque pour le simple plaisir de renverser une poubelle et de dire ensuite c'était pas moi. Avec sa petite chemise rayée, ses petites lunettes, ce matin Audrey Lamy, invitée de Boomerang, pour son rôle dans Les Invisibles, un rôle tout en nuances qui contraste quand même, j'ai l'impression, avec ceux que vous tenez habituellement, Audrey, dans ce film. Oui. Vous n'êtes pas là uniquement pour faire rire.
Non, mais et je remercie tellement Louis-Julien de m'avoir proposé. Déjà, quand j'ai eu le scénario dans ma boîte aux lettres, je me suis dit, oh, Louis-Julien Petit, génial, parce que je connaissais son cinéma, je savais ce qu'il faisait. Et je me suis dit, ah, c'est chouette, parce que j'étais assez étonnée.
Surprise,
voilà.
Ouais.
Oui, surprise, parce que j'ai fait de la télé pendant 10 ans. On me connaît très bien, enfin, on me connaît beaucoup dans Scène de ménage, donc il y a de la vraie comédie. Et quand j'ai lu le scénario, alors j'ai une petite anecdote aussi là-dessus, c'est que j'ai commencé à lire le scénario, j'avais un rendez-vous genre 40 minutes après. Je me suis dit, bon, je vais lire le scénario, je vais aller à mon rendez-vous et je vais finir le scénario ce soir en rentrant. Et je ne suis jamais allée à mon rendez-vous.
Ah.
Non. J'ai eu un gros coup de cœur et hyper touchée qui me propose, effectivement, souvent les réalisateurs ont tendance à nous proposer un peu ce qu'on sait faire. Et lui, il avait envie de me mettre un petit peu plus en danger.
C'est drôle que vous disiez ce qu'on sait faire, parce que quand est-ce que vous avez découvert que vous faisiez rire, vous qui, enfant, il paraît que vous étiez un peu austère.
Ah, mais complètement. On m'appelait Mercredi Adams. Je foutais les jetons. C'était insupportable.
Mercredi Adams.
Non, je disais pas un mot. J'avais les bras croisés. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé?
Mais non, et en plus, au conservatoire, j'ai fait énormément de tragédies. Mmh. Donc, c'est marrant quand même. C'est marrant.
Non, mais qui ne comprend pas.
Je ne comprends pas.
C'est un malentendu.
Non, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait Tout ce qui brille, le film de Géraldine Nakache, oui. Et la directrice de casting qui s'appelait Emmanuelle Prévost, je pense. Il me semble, si je me souviens bien, elle avait pensé à moi 6 ans après. Elle m'avait vu au conservatoire dans Horace et rien à voir. Et elle a pensé à moi pour Carole, pour le rôle de Carole. Dans
qui
tout
était
ce
la
qui
meilleure
brille.
Amie.
Exactement.
Déjantée.
La prof de sport, qui a pas sa langue dans sa poche et. Et après, il y a eu Scène de ménage, j'ai fait mon one man, donc c'est vrai que tout de suite, j'ai vraiment appuyé le côté comédie.
Et les grandes héroïnes tragiques que vous aimiez tant, elles sont toujours là, quelque part?
Mais moi, ce que j'aime, c'est pouvoir faire aussi plein de choses. Je veux dire, ça fait du bien aussi. C'est comme si vous mangez toujours un steak frites. Au bout d'un moment, on a envie de goûter un petit peu autre chose. Bon, c'est-à-dire que là, c'était en plus le bon moment quand j'ai croisé le chemin de Louis-Julien Petit. C'était vraiment le bon moment où j'avais aussi envie de... Voilà, de me voir différemment, et puis on vieillit aussi de temps en temps, donc on a envie d'aller vers des personnages peut-être un peu moins colorés, quoi.
Entre nous, ça vous manque un peu, ce registre classique, tragique, de théâtre aussi, dans lequel vous brillez,
alors,
la comédie française.
J'adorerais retourner
au conservatoire.
Ouais, j'adorerais retourner au théâtre. J'adorerais retourner au théâtre parce que. Je trouve qu'il y a cet enjeu chaque soir avec un public différent. Alors après, j'ai fait un one woman show, j'adorerais faire un deuxième. Donc quand j'ai écrit le premier one woman show, je me suis cassé une jambe et c'est pour ça que j'ai écrit mon spectacle. Donc, je me suis dit là, je vais peut-être me casser la deuxième jambe pour écrire le deuxième.
Pas, non, Audrey,
non, mais en tout cas, c'est quelque chose ça serait un très joli projet, ouais.
En tout cas, c'est un classique que vous avez choisi de nous lire ce matin, c'est un extrait dont ne badine pas avec l'amour.
Oui, c'est un extrait parce que je l'ai lu quand j'étais en seconde, en option théâtre, et c'est un des textes que j'ai lu pour la première fois et qui m'a plu, voilà, donc j'avais envie de vous le lire ce matin. Vous avez sûrement entendu plein de fois, mais voilà, c'est un texte qui me tient à cœur. Donc c'est le texte de On ne bannit pas avec l'amour.
De Musset.
Et je vous le lis, je
oui.
commence.
Ah oui.
D'accord. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de franges. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois ». Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
Ah, c'est un beau texte. C'est intéressant quand même, parce que dans les mots de Musset, on entend que l'amoureux a quelque chose de l'acteur.
Mais ouais.
Audrey Lamy, un peu. Hein.
Non, mais c'est beau, voilà, on se dit que... On n'est pas tous parfaits, mais alors, du coup, acceptons-nous. Alors, voilà.
Vous acceptez, vous ?
Ouais.
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 Ouais, c'était un petit oui, là.
Ah, ah oui, complètement.
Bon, alors, on finit sur un grand oui.
Oui,
ensemble,
sûr.
Tous les deux. Oui.
Ouais.
Allez, oui.
Oui.
Oui. Merci. Merci. Audrey Lamy, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les Invisibles de Louis-Julien Petit avec Corinne Marciro, Noémie Ilovski, Déborah Lukumona, Brigitte Simé aussi. Vous la mentionnez, la stupéfiante Adolpha Van Merague dans le rôle de Chantal, entre
elle
autres, sort demain. C'est un film épatant, d'humilité, et d'humanité aussi, à mon sens. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Sommeil, Cléa Vincent sur France Inter, et c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
Oui, très, très réveillée, Sonia De Villers.
Bon, bah, écoutez,
salut Augustin,
salut.
À demain.